SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Bertrand Tunganamé pour vous accompagner pendant une heure de programme en français sur SBS Audio ce samedi 6 juillet. Au sommaire de cette édition, rencontre avec la directrice artistique de la compagnie Carabos qui présente son œuvre Fire Gardens à Adélaïde tout le long de ce mois de juillet. Dans ce programme, on va aussi apprendre comment on joue au Scrabble tout en prenant un apéritif. Nous avons également un entretien avec Guillaume Brahimi qui nous apprend à fabriquer un riche soufflé du Pays Basque. Sans plus tarder, Marianne Murat en conversation avec Nadine Guinefolo de la compagnie Carabos.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
On reçoit sur les ondes de Radio SBS aujourd'hui Nadine Guinefolo, la directrice artistique de la compagnie Carabos. On va vous expliquer dans un instant ce que c'est. Nadine, bonjour.
Bonjour.
Vous participez au Illuminate Adelaide, un festival d'hiver qui, comme son nom l'indique, se déroule à Adelaide dans le South Australia. C'est un événement qui transforme le jardin botanique de la ville avec de la musique, de la lumière, des technologies pendant une grande partie du mois de juillet. Est-ce que vous pouvez nous parler de Fire Gardens que vous allez justement présenter au Illuminate Adelaide?
Nous, on travaille avec la flamme, avec des grosses bougies. Alors, quand vous parlez de technologie, nous, notre technologie, elle est un peu préhistorique. Le principe, c'est d'éclairer un espace, provoquer des rencontres, éclairer une promenade. Ça peut être un arbre, ça peut être une fontaine, ça peut être tout un tas de choses. Et grâce à tous ces objets-là, voilà, on va imaginer un parcours, une promenade libre pour que le public, pendant entre 2h30 et 3h, le public puisse se promener comme ça, comme entre parenthèses, dans un autre espace-temps. Voilà le principe.
Alors là, à Adelaide, on va pouvoir voir votre travail pendant 12 jours, mais vous l'avez dit, ça fait 30 ans que vous réalisez des œuvres à la bougie. Est-ce que vous avez dû vous adapter à la forme du jardin botanique d'Adelaide? Est-ce que ça va être une œuvre qu'on peut déjà avoir vue dans une autre ville du monde où vous avez déjà performé, ou alors est-ce que ça va être unique?
C'est totalement unique. C'est pour ça que depuis 30 ans, on s'ennuie pas. En fait, on travaille in situ, c'est-à-dire qu'on adapte le projet complètement au lieu. C'est le lieu qui nous guide, qui nous inspire pour proposer le projet artistique de l'installation de feu, en français, du Fire Garden. Et donc, ce que vous allez pouvoir découvrir à Adélaïde, ben, on peut le faire seulement à Adélaïde. Il y a certaines structures qu'on réutilise. Mais là, pour le coup, à Adélaïde, on aura des structures complètement nouvelles qui ont été imaginées vraiment pour le jardin.
Mais alors, comment ça se passe? Puisqu'on imagine bien que vous n'êtes pas encore arrivé, puisque pour nos auditeurs, je précise que le Illuminate Adélaïde va se dérouler du 4 au 21 juillet. Est-ce que vous travaillez sur plan, ou est-ce que ça va être fait seulement quand votre équipe arrivera en Australie?
Tout ce travail-là est très, très, très bien étudié. Vous imaginez qu'on ne peut pas arriver avec des flammes comme ça à l'autre bout du monde et puis dire allez, on met tout ça ici.
Ah, c'est
Non,
bien
non,
ça.
non. C'est vraiment un travail qui se passe vraiment en amont. Il y a deux collaborateurs de la compagnie qui sont allés visiter les lieux à Adélaïde. C'est un endroit qu'on connaissait déjà parce qu'on est des fidèles d'Adélaïde. Et du coup, ces deux personnes-là sont allées rencontrer les lieux, sont allées rencontrer les gens aussi du festival pour imaginer quelque chose qui soit vraiment sur mesure. C'est du cousu humain, comme on dit en France. Et du coup, ce projet-là, voilà, il a été écrit, imaginé, il a été transposé sur plan. Et puis après, il a été validé, aussi des deux côtés
C'est pas
qui.
la première fois que vous travaillez avec l'Australie dans différentes villes australiennes, c'est la première fois que vous participez au Illuminate Adelaide.
Exactement.
L'année dernière, en 2023, l'édition 2023 du Illuminate Adelaide a reçu le prix du meilleur festival en Australie-Méridionale, donc à South Australia, l'état dans lequel il y a Adelaide. Est-ce que ça joue pour vous de performer pour un festival qui est reconnu?
Bah, c'est toujours gratifiant. Ça met aussi une pression, hein, quand même. Mais c'est toujours hyper agréable d'être invité à des endroits comme ça reconnus. Ceci dit, nous, on a toujours un vrai attachement à chaque endroit où on va, à chaque lieu qu'on éclaire.
Vous le disiez, c'est plusieurs mois de préparation et sur plan et en se déplaçant et une fois sur place. Est-ce qu'en parallèle, vous travaillez déjà avec des projets futurs ailleurs dans le monde?
Oui. Alors, en fait, c'était ça aussi l'enjeu pour la compagnie d'accepter cette invitation sur 12 soirs. C'est très inhabituel pour la compagnie parce qu'habituellement, on reste un peu moins longtemps. On reste le temps d'un week-end, 4 soirs, maxi 6 soirs, on va dire. Et là, d'enchaîner, voilà, ça posait question à plein d'endroits et notamment sur la disponibilité du matériel. Parce que la compagnie ne peut pas être présente seulement à Adélaïde. Donc on a des projets qui se font en parallèle à d'autres endroits en France, en Europe.
Est-ce que du coup, vous devez fournir un service sécurité pour être sûr d'éviter tout danger lors des représentations?
Déjà pour nous, l'équipe. Il est hors de question qu'il se passe quoi que ce soit comme accident. C'est aussi une grande leçon d'humanité parce qu'on est obligé de faire confiance au public. Et c'est pour ça que c'est assez magique. C'est qu'au moment où toutes les flammes s'allument et que vous voyez les réactions du public, c'est assez surprenant. Cette réaction très responsable qui a tendance à se perdre aujourd'hui, je trouve. Là, il y a une responsabilité collective qui se débloque en chacun de nous. On se dit, ah, attention, ça peut potentiellement être dangereux. Et pourtant, c'est beau. Donc oui, effectivement, nous, on est très attentif à la manière dont on écrit les projets. On est toujours en vigilance. On a toujours une présence assez fournie dans les espaces de l'installation de feu. Et effectivement, on travaille aussi avec les gens qui nous invitent pour avoir une fluidité dans les déplacements. Pour que les gens ne se perdent pas, qu'il y ait une discussion constante avec le public.
Et pour ce qui est de la musique, est-ce que c'est la compagnie Carabosse qui choisit la musique qui va aller avec l'œuvre ou est-ce que c'est Illuminate Adelaide qui va choisir la musique?
Ah non, c'est la compagnie Carabosse qui invite des musiciens et musiciennes à travailler dans les installations de feu. Et vous savez, une installation de feu, c'est vraiment une expérience sensorielle. On fait fonctionner le regard, on fait fonctionner l'odorat. On fait fonctionner le toucher, on fait fonctionner l'ouïe. On a vraiment tous les sens en action. On va pas avoir la même poésie si on met du hard rock, du rock and roll, du funk ou une musique écrite pour les installations de feu. C'est évident.
Dernière question, Nadine, qui peut paraître une question un petit peu bête, mais en l'occurrence, vous êtes en France en ce moment, vous rentrez dans le printemps, les beaux jours arrivent. Ici, c'est l'opposé. On rentre dans l'hiver. Le Illuminate Adelaide, on l'a dit en introduction, c'est un festival d'hiver. Il va faire froid, c'est possible qu'il pleuve. Comment on fait face à la pluie quand on est une installation de feu?
Une flamme, c'est vraiment une énergie assez remarquable parce qu'elle réchauffe les corps, elle nourrit, elle nous protège, elle nous éclaire et elle résiste aussi à la pluie. Elle est waterproof. Donc ça, on est assez habitué. On a la chance de pouvoir faire des installations de feu à toutes les saisons. Donc ça, c'est super. Et puis du coup, on est assez content aussi de pouvoir aller à Adélaïde l'hiver. On va sortir les bancs chauffants, on va sortir les bras zéro pour réchauffer les mains, les cœurs et les esprits. Et voilà, ça va être super.
Donc, on rassure nos auditeurs qui vont se rendre au Illuminate Adelaide du 4 au 21 juillet. S'il fait beau, tant mieux. De toute façon, de nuit, ça sera absolument magnifique. Mais s'il vente ou s'il pleut, la compagnie Carabosse a tout prévu et on pourra quand même voir les Fire Gardens.
Ah ouais, et puis en plus, même quand il pleut, les pots se mettent à chanter, nos pots de feu se mettent à chanter, donc c'est une autre ambiance.
Nadine Guinfolo, je le répète, vous êtes la directrice artistique de la compagnie Carabosse. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et c'était Pomme qui nous interprétait Le temps des fleurs. L'euro dans la tourmente des fractures de notre époque. Polémique autour du geste de célébration politique du défenseur Mehdi Derimal. Extrait de l'émission Radio Foot International. Et pour en débattre autour d'Annie Gasnier, les consultants du jour Salim Bungali, Naïm Moniol, Carlos Bianchi et David Frinzel. Et un invité, le sociologue Seguir Lazri. Et sur le terrain, c'est la Turquie contre les Pays-Bas ce samedi à Berlin.
Un exemple aussi de l'incursion finalement politique dans la fête du football, eh bien c'était qualification de la Turquie. C'est la première fois depuis 16 ans qu'elle se retrouve en quart de finale et elle avait éliminé l'Autriche. Mais sur la pelouse, on a vu après, parce que sur l'instant évidemment ça peut passer inaperçu, surtout pour les gens qui connaissent pas, il y a un geste de commémoration du double buteur de la soirée, qui a été aussi désigné comme du match, qui a eu un geste qui fait écho au ce qu'on appelle les loups gris, qui est un mouvement d'extrême droite nationaliste turque interdit en Autriche, et l'Autriche c'était les adversaires hier soir de cette Turquie. Il s'appelle Mehdi Demiral et il ne l'a pas fait par hasard, ce geste.
Je suis très heureux d'avoir marqué deux buts. Bien sûr, j'avais une célébration de but en tête et je l'ai faite. Je suis très fier d'être turc. C'est pourquoi je l'ai ressenti dans mes os après avoir marqué. C'est ce que je voulais faire. Je suis très heureux de l'avoir fait et tous nos fans sont fiers de nous. Je les avais déjà vus dans les tribunes faire cette célébration. Et après les avoir vus, j'avais encore plus envie de la réaliser. Comme je l'ai dit, je suis très heureux.
Alors au lendemain, Salim, de ce geste, ça a mis un peu le feu partout parce que des ministres turcs ont soutenu le geste du joueur. La ministre de l'Intérieur allemande, elle s'est insurgée, elle a dit utiliser l'euro de foot comme plateforme pour le racisme est totalement inacceptable. Le symbole des extrémistes de droite turque n'ont rien à faire dans nos stades. Du coup, l'ambassadeur allemand à Ankara qui a été appelé par le gouvernement. Donc il y a toute une chose en chaîne et l'UEFA a ouvert une enquête.
Oui, l'UEFA fait ce genre de choses. Lorsqu'il y a des mouvements, ça arrive même lors de la Ligue des Champions, de l'Europa League, des gestes politiques un peu de ce
Théoriquement, c'est interdit.
Absolument, absolument.
Pas de message sur de t-shirt, pas
totalement,
de théoriquement.
Totalement, mais c'est vrai que le geste, ben, c'est vrai que moi je l'ai vu après coup, je vous avoue, je ne le connaissais pas, hein, je vais pas mentir. Donc,
le geste,
c'est vrai que
non, oui, non plus.
Moi je le connaissais pas, donc c'est après en ayant eu les explications que, effectivement, là on se dit, ouais, c'est qu'il nous fasse pas croire que c'est par hasard qu'il l'a fait,
il
effectivement.
Le dit, mais il le dit clairement.
Et il l'admet, d'ailleurs, par la suite.
C'est ce que je te disais il y a 5 minutes, les Turcs sont vachement engagés là-dedans, rappelle-toi, Mesut Özil.
Absolument.
Mais, et en fait, c'est là, il faut comprendre que la construction, non, Annie, la construction ethnologique, sociologique et l'histoire politique des pays n'est pas la même. En France, on fait un truc comme ça, un truc qui pourrait être assimilé au GUD. Qui a été dissous d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, les trucs d'extrême droite, ou un truc du Front National, ça prendrait tout de suite des proportions.
C'est un syndicat étudiant.
Alors que si, en Turquie, la construction politique et sociologique de la Turquie fait que c'est pas une insulte d'être nationaliste. C'est des trucs qui se revendiquent, qui sont très fiers. Alors qu'en France, c'est très mal vu.
Ça peut être vu comme une insulte. Non, on peut pas dire que c'est pas une insulte parce qu'il y a quand même une frange assez marquée de l'opposition turque quand même par rapport au Erdogan, par rapport à cette position-là. Non, parce que
c'était un geste de provocation.
C'est un geste de provocation.
Mais évidemment.
C'est un geste de provocation et c'est aussi condamné en Turquie. Il faut pas le nier. Il y a quand même il y a des mouvements de contestation en Turquie. Il y a des opposants politiques. Il y a quand même
oui,
une
des opposants, turque. Mais pas c'est pas le parti majoritaire. On est bien d'accord.
Non, c'est pas opposants. Le parti. C'est le voilà. Parti majoritaire.
C'est, ah, non, mais c'est, non, ils sont liés c'est... au parti à la oui, CAP qui est au pouvoir.
Vous dis. C'est ce que je vous dis. Les loups gris, les machins, c'est des trucs qui vont un peu dans le sens du parti.
C'est pas les machins. C'est une organisation.
Il y a des opposants qui vont dénoncer ce geste-là.
Nationaliste. Oui, mais
parce que néanmoins, même s'ils sont rattachés à ce parti, comme vous auriez aujourd'hui un groupuscule qui serait attaché au parti, peut-être demain, qui sera le, malheureusement peut-être le Rassemblement National. Néanmoins, ce qui se passe, ce qui se pose dans cette question, c'est ce que déclare le joueur. Le joueur déclare « moi j'ai fait ça parce que j'aime la Turquie ». Or, c'est une vision la Turquie, c'est pas la vision turque officielle, c'est une vision de la Turquie, c'est sa vision. C'est une vision qui plus est, oppose certains Turcs. Parce que dans cette vision des loups gris, dans ce mouvement nationaliste-là, c'est un mouvement pan-turc qui prend en considération une seule origine ethno-raciale et qui met de côté les Kurdes, les minorités arméniennes qui vivent dans l'ouest de la Turquie, qui met de côté. C'est une identité qui exclut d'autres individus qui sont censés former la Turquie, qui sont censés former et générer une cohésion nationale, sont censés former un État.
Les positions, donc je vous pose la question, les positions d'Erdogan vis-à-vis des Arméniens, des Kurdes et ainsi de suite, c'est quoi?
Exclut totalement. C'est-à-dire qu'il les considère pas dans ce moment-là. Oui, ouais. Mais néanmoins, c'est une vision de la Turquie. Donc c'est pas forcément ce qu'il est censé représenter. Il est censé avoir une forme. Le maillot qu'il porte est censé dans le discours officiel parce que, alors ça, c'est un leurre aussi. Il faut pas penser que le sport est un endroit apolitique. Le sport est gorgé de politique. C'est-à-dire que dans le sport, on retrouve toutes les tendances et toutes les confrontations politiques qu'il peut y avoir dans le monde social. Ça, c'est évident. Mais néanmoins, quand il déclare ça et qu'il s'excuse sur ce point de vue-là, c'est un parti pris politique. C'est un parti pro-politique qui peut être critiqué. C'est une excuse en disant moi de toute manière
C'est le parti pris du gouvernement, on va dire, en tout cas on est bien d'accord.
Oui,
voilà, non, c'est la position officielle.
Non, c'est pas le parti pris, c'est comme si demain il y avait un geste qui avait si demain par exemple admettons hein, c'est une situation un peu encore rocambolesque, mais si demain le Rassemblement National devient le parti majoritaire et que au bout d'un moment il y a quelqu'un qui exalte une figure particulière de l'histoire de France sur son t-shirt, je sais pas, un joueur qui lève et qui montre je sais pas Maurras ou autre. Effectivement, il va dire, mais Maura, c'est l'identité française, c'est la grande France et tout ça. Et forcément, les députés, ou du moins, les ministres qui sont apparentés à ce parti vont tout simplement dire, oui, c'est tout à fait normal, il a le droit ou autre. Mais c'est pas pour autant que ça soit forcément la ligne véritable et la vérité. Et il y aura des mouvements d'opposition, il y aura des mouvements.
Mais tous les pays, et tout le monde dit, on n'interprète pas nationalisme de la même façon,
hein. C'est ça, bien sûr.
Ici, exactement. Ici, c'est nationaliste.
Voilà. C'est exactement ce que je te dis.
On dit qu'ils sont pas bons.
Non, mais d'ailleurs, Seguir, ce qu'on peut dire, c'est que autour finalement des équipes de football et tout le cérémonial qu'il y a autour des matchs, que ce soit les couleurs nationales portées sur les maillots, les hymnes qu'il faut chanter ou en tout cas articuler, et puis même on a vu les Ukrainiens. Alors eux, ils vivent un moment particulier, mais enroulés dans leur drapeau national pour se présenter. Évidemment, il y a aussi tous ces ingrédients de nationalisme ou en tout cas de patrie qui sont représentés.
Vous aimez le foot? Branchez-vous sur The World Game. Regardez la A-League en ligne, la Coupe du Monde en direct ou les meilleurs moments sur vidéo. Retrouvez les derniers résultats, les nouvelles et les analyses sur theworldgame.com.au ou sur Twitter.
C'était Ti Paradis, une chanson des frères Timal. Vous êtes toujours à l'écoute du français sur SPS Audio ce samedi 6 juillet. À présent, une courte pause. Après, on retrouve Guillaume Brahimi en conversation avec notre collègue Audrey Bourget. Ils s'entretiennent sur la confection d'un soufflet spécial à l'osso ité, un fromage basque. On va aussi apprendre comment on joue au Scrabble tout en prenant un apéritif. À tout de suite.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Si vous suivez la série Guillaume's French Atlantic sur SBS Food et SBS On Demand, vous savez que Guillaume Brahimi sera de passage au Pays Basque dans le dernier épisode de la saison, le jeudi 18 juillet. Il va entre autres préparer un soufflé à l'osso irati, ce riche fromage de lait de brebis au goût de noisette. Que vous soyez déjà fan du fromage ou que ce soit la première fois que vous en entendiez parler, j'ai rencontré une experte de l'osso irati, Valérie Anne Best de Smelly Cheese à Adélaïde. Elle nous parle du fromage et de son séjour chez un berger et producteur d'osso irati dans les Pyrénées.
Pour commencer, disons que si quelqu'un vient chez Smelly Cheese à Adélaïde, puis vous demande qu'est-ce que c'est l'osso irati, qu'est-ce que vous leur dites?
Je leur parle du fait que c'est probablement l'un des fromages les plus anciens du monde. Il y a une légende, une belle légende, qui dit que le fils d'Apollo, du dieu Apollo, il était berger et donc il créait un fromage qui serait l'ancêtre de l'osso irati. Donc il parle de l'un des plus vieux fromages du monde puisqu'il y aurait des traces historiques qui remonteraient jusqu'à 3000 ans. Donc c'est assez phénoménal. Même si ça n'est qu'une légende, je pense que c'est vraiment un fromage qui a été fait depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que les hommes traient les brebis et je pense que les brebis et les chèvres étaient les premiers animaux à être traits avant les vaches. Et donc, je pense que le fromage de brebis est un fromage très ancien. C'est un fromage qui vient donc des Pyrénées. Ça s'appelle l'osso irati parce que l'osso, c'est la vallée d'osso, donc dans les Pyrénées. Et l'irati, c'est une vallée du Pays Basque. Donc c'est vraiment une petite mixture d'un produit franco-basque. C'est assez intéressant parce que bon, c'est un produit qui a des traditions extraordinaires, qui est toujours vraiment protégé. Les Français aiment énormément ce fromage. Je leur dis que c'est un fromage fait avec un lait de brebis, donc qui est plus rare dans le sens où les brebis produisent moins de lait que les vaches, bien évidemment, c'est un animal bien plus petit, donc il arrive que le lait vienne à manquer. C'est aussi un produit qui coûte un petit peu plus cher parce qu'effectivement, il y a l'offre et la demande, mais c'est un produit qui, d'un point de vue santé, est maintenant, c'est bien compris que le lait de brebis affectera moins les gens qui souffrent un tout petit peu d'intolérance du lait.
Visuellement, le fromage a l'air de quoi?
Alors, c'est un fromage qui fait environ 7-8 kilos. Il a une marque qu'on reconnaît. Il y a deux types d'osso. Il y a l'osso fermier et l'osso qui est fait toute l'année et qui est fait aussi de façon plus industrielle. L'osso fermier est reconnaissable avec une tête de brebis relativement succinctement faite. Donc il a une croûte orangée, une croûte qui s'affine avec le temps et qui change bien sûr visuellement avec le temps. On sent un produit traditionnel, on sent quelque chose qui est fait manuellement et on sent l'effort de l'humain dans la production de ce fromage. Il a une pâte un peu plus clair que le lait de vache, mais un peu moins blanche que le lait de chèvre. Il a une odeur fermière, on sent effectivement l'herbe, on sent la présence de l'animal pas si loin que ça. C'est un produit qui est attirant parce que je pense qu'il n'a pas changé depuis des milliers d'années et il a toujours la même tête et je pense qu'il est toujours aussi bon. Je pense qu'il attire visuellement. Il a des petites taches parfois des petites taches rouges qui sont signes d'un parfum et d'un goût extraordinaire qui est très typique des Pyrénées. Donc quelque part il a une vraie typicité.
Alors vous écoutez parler de fromage et le plus important le goût de l'osso irati. Qu'est-ce que ça goûte?
C'est donc un pur lait de brebis. C'est une brebis qui est typique du coin. Ça s'appelle la brebis basco-béarnaise. Donc c'est vraiment une brebis particulière. Et le lait de brebis, typiquement, il a une longueur, il est assez gras, mais il a surtout un goût de noisette, et c'est ce qu'on va vraiment retrouver dans les fromages qui utilisent le lait de brebis. Je pense que les fromagers, ils aiment utiliser le lait de brebis parce qu'il a plus de matière grasse, il a un peu plus de calcium, on va peut-être donner moins de fromage, mais il va avoir un goût très beurré, très finalement relativement intense, mais intense avec une douceur sucré-salé qui est toujours exceptionnel. C'est un fromage qui est entre la noisette, l'herbe. On est dans la montagne avec ce petit fromage, sans que ça soit très très fort. Et c'est pas un fromage fort, c'est un fromage doux, c'est un fromage qui va fondre merveilleusement dans la bouche et aussi si vous le mettez dans un toastie, donc c'est exceptionnel. Mais c'est un produit qui j'ai eu la chance de travailler avec un fabricant d'osso irati. Et donc, l'osso irati, il va être fait différemment l'hiver ou l'été. L'hiver, en l'occurrence, donc, les petites chèvres, elles restent, quand elles sortent, de toute façon, il y a beaucoup de neige dans le pays dans lequel elles vivent. Donc, elles sont alimentées différemment avec des grains, avec des graines, avec un peu de foin qui a été récolté pendant l'été. Mais j'ai eu la grande chance, fin mai l'année dernière, d'emmener ces petites brebis en alpage. Ça veut dire que fin mai, début juin, les bergers accompagnent les petites brebis en altitude. En fait, on suit un petit peu la fonte des neiges et on monte avec les brebis. Dans un premier temps, à environ entre 1300 et 1700 mètres d'altitude, pour que ces brebis aient accès à une passée extraordinaire. Et moi, j'ai donc accompagné des brebis qui, comme vous l'imaginez, elles se suivent assez rapidement, assez facilement l'une l'autre. Mais s'il y en a une qui décide de rentrer, toutes les autres suivent. Donc, effectivement, les bergers ont un rôle très important à jouer, à essayer de mener leur troupe de brebis dans un point que les vieilles brebis connaissent. À la limite, elles y vont toutes seules. Les jeunes brebis ont besoin un petit peu d'aide. Et là, elles étaient toutes jeunes. On les a emmenées. Ça prend, on a pris, je sais pas, 4-5 heures pour les emmener de 700 mètres d'altitude à 1300 mètres d'altitude. C'est impressionnant. Elles ont toutes des petites cloches. Elles ont des petites couleurs sur la laine pour savoir à peu près l'âge ou donc ce qu'on peut attendre de ces petites bêtes. Et puis tout d'un coup, au bout de 4-5 heures de grimpette, alors que le sol est caillouteux, parfois on est à flanc de montagne, je me dis mais on va en perdre, c'est sûr, elles vont tomber. Et en fait, elles s'accrochent bien à la montagne. Et au bout de 3-4 heures, on arrive dans une vallée. C'est extraordinaire, avec des pics où on voit encore la neige un peu plus haut, mais tout d'un coup les brebis arrivent, elles courent dans un champ mais d'herbe toute fraîche, il y a des petites rivières d'eau là, c'est idyllique, et on imagine que les petites brebis sont aussi heureuses que l'image que ça nous donne. C'est extraordinaire. Donc on a vécu trois jours dans cette petite vallée où il y a des huttes qui sont très 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 basiques. Il y a pas de chauffage, il y a à peine d'eau courante, et le fromager va faire de l'osso irati en alpage, en altitude. Ils appellent ça l'estive, et il va faire en gros pendant l'été 500 roues d'osso irati en haute altitude avec très peu de machinerie. Finalement, il venait juste d'installer une traite électrique, mais c'était tout neuf. C'est la 48e estive qu'il faisait. Il avait à peine 55 ans, donc il a démarré très jeune avec son père. Et lui, il se rappelle de moments où il faisait toute la traite à la main. Et quand on traite 200, 300 brebis à la main, ça prend un temps fou, d'autant qu'il y a une traite du matin, une traite du soir. On fait le fromage entre les deux traites. C'est exceptionnel. Et ces petites meules d'osso irati vont rester donc tout l'été dans cette petite hutte où, encore une fois, il y a très très peu de confort. Je trouve ça vraiment, ça rend tout humble, parce qu'on se, les gens vivent encore là-haut comme on vivait il y a 300 ans. Un espèce d'écosystème vraiment très intéressant ancestral. On sent bien que cette tradition n'a pas vraiment changé depuis des centaines, si ce n'est des milliers d'années. Et c'est très touchant de voir comment le fromage est fait. Donc, quand on voit un fromage d'estive, un fromage fermier, un fromage qui est fait l'été, donc c'est les fromages d'estive. Je pense que en tant que consommateur, c'est important de comprendre d'où vient le produit, comment il a été fait, et donc du coup la qualité exceptionnelle et les goûts extraordinaires du lait de brebis qui est c'est vraiment la traduction intégrale du lait de brebis. Puisque chose importante, c'est un fromage qui est fait au lait cru, bien évidemment, le fromage d'estive, même s'il y a quelques osso erratiques qui sont faits au lait pasteurisé. C'est important de savoir que en Australie, puisque c'est là que nous sommes, l'osso errati au lait cru n'a été autorisé que depuis 2021. Donc c'est assez récent. Donc on a la grande chance maintenant de faire venir des produits de terroir, des produits au lait cru, et ça c'est important. Et c'est, je suis ravie moi que l'Australie ait enfin ouvert la possibilité à ces produits pour entrer dans ce pays.
Et puis est-ce que c'est un fromage qui est connu? Est-ce que vos clients viennent le demandent, ou est-ce que c'est encore un peu nouveau ici?
Je pense que c'est un des produits qui est de plus en plus connu, et il a eu cet avantage de tomber justement dans cette petite niche qui, d'un point de vue santé, fait que les gens recherchent des produits au lait de brebis. Donc finalement, il n'y en a pas énormément. Et entre le manchego espagnol et le osso errati, ce sont deux produits que les gens réclament beaucoup. Et je pense que ça vient énormément du côté non seulement sanitaire, mais d'un point de vue santé personnelle, où les gens commencent à comprendre effectivement l'intérêt d'un produit au lait de brebis.
Évidemment, on peut l'apprécier seul, mais vous mentionnez plutôt les toasties. Comment vous suggérez de le manger?
Alors, il y a une très belle tradition dans les Pyrénées qui fait que ce produit est mangé avec une petite confiture à la cerise noire. Et c'est vraiment une tradition. Si vous êtes dans le Pays Basque ou dans les Pyrénées, il va être servi avec une petite cuillère de cerise, de griotte, de petite confiture à la griotte. Ces petites pâtes, effectivement, ou les petites pâtes de coing, ou les petites pâtes de fruits rouges, ça va très très bien avec l'osso errati. On peut bien évidemment rajouter une petite touche de cette confiture sur un toastie. Ça rend le produit sucré-salé extraordinaire. Les vins, moi j'adore personnellement l'osso errati avec un pinot noir, parce qu'il y a un petit côté sol, sous-sol boisé, des côtés fruits rouges aussi qui sont bien exprimés par le pinot noir et qui vont vraiment merveilleusement avec le l'osso errati. C'est vraiment un fromage de table. Je pense que c'est un fromage qu'il faut goûter essentiellement seul ou avec une petite cuillère de confiture de cerise. Parce qu'il a, il parle tout seul, ce produit. Donc, il va bien évidemment se fondre, mais je pense que c'est vraiment un produit qui doit se déguster seul.
C'est tellement merveilleux, ce serait triste, je pense, de le perdre avec trop de saveurs différentes. Je veux vraiment en profiter. Quand j'ai de l'osso errati à la maison, je veux en manger seul, souvent, pas d'autres fromages non plus, je veux en profiter.
Mais tu vois, moi, ce que je pense qui est important, c'est que effectivement, c'est aider les gens à toucher le fromage, à être sûr qu'il soit à température ambiante, le respirer, parce qu'il a tellement il donne tellement d'arômes, ce fromage. Donc c'est moi je dis toujours aux gens, prenez votre bout d'osso errati, mettez-le dans vos mains, ouvrez vos mains, respirez vos mains, et seulement après avoir respiré profondément les arômes de l'osso errati, c'est le goûter, et là tout d'un coup il va s'exprimer complètement, et c'est une vraie, c'est comme la cérémonie du thé. Je pense qu'il faut vraiment, il y a une cérémonie de la dégustation de l'osso errati, comme de tous les fromages de tradition. Ils ont tellement à offrir, il faut juste savoir les écouter, savoir les respirer, savoir les déguster à leur juste valeur.
Merci beaucoup, Valérie.
Si vous voulez parler fromage avec Valérie Anne Best, vous pouvez la retrouver chez Smelly Cheese au Central Market d'Adélaïde. Ces fromages, dont le Soirati, peuvent aussi être livrés par la poste presque partout en Australie. Et si vous voulez regarder l'épisode de Guillaume's French Atlantic au Pays Basque, ce sera diffusé jeudi le 18 juillet à 19h30 sur SBS Food. Et ensuite en rattrapage sur SBS On Demand.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
On a le plaisir d'avoir Marie-Hélène Prédhomme, la directrice de l'Alliance française de Melbourne, et deux invités qui sont en France, Martine Stevna et René Barajenski. Bonjour et bienvenue à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jean, merci.
Peut-être on va commencer par vous demander de nous parler de votre passion, Scrapero. Allez-y.
En fait, la passion, c'est plutôt le Scrabble, qui est devenu après Scrapero, grâce à Martine. C'est Martine qui a trouvé ce nom. Parce qu'en fait, on jouait au Scrabble très, très régulièrement et avec beaucoup d'intérêt. Hein, oui. Voilà. Martine est arrivée un peu après aussi, parce qu'on jouait avec une amie qui, malheureusement, est devenue, ou comment est-ce qu'on dit, est devenue Alzheimer, oui. Ou a eu Alzheimer. Et quand ça a débuté, au départ, on faisait souvent Scrabble chez elle avec une autre amie encore. On était trois. Et pour la faire sortir de chez elle, parce que ça devenait très...
Mais très difficile.
Oui,
c'était avec difficile. Sa maladie, elle ne voulait plus sortir, en fait.
Voilà, avec sa maladie, elle ne voulait plus sortir. Du coup, on était quatre au départ, et on s'invitait les unes chez les autres, et... on faisait toujours une petite collation, comme ça se passait après 5 heures, et bien c'était l'heure de l'apéro. Et Martine a eu la géniale idée d'appeler ça Scrapero.
Scrapero ?
Scrapero. Voilà. Comment est venue l'idée de Scrapero ?
Tout le monde se réunissait combien de fois par semaine ou par mois ?
C'était une fois par semaine. Hein.
Une fois par semaine. Ouais.
Une fois par semaine. Ouais.
Donc, accompagné d'un apéritif. Et je demande à Marie-Hélène de nous parler comment elle s'est rejointe à ce groupe.
Moi, j'ai eu la chance que Martine ait été notre voisine, là où on habite en France, à Lens-en-Vercors, dans le Vercors. Et bon, malheureusement, elle a déménagé, elle a changé de quartier. Donc, pendant le Covid, on a dû se faire une ou deux parties à distance, ou une ou deux fois le soir, où on a dû s'échapper un petit peu pour faire une partie. Martine venait chez nous faire un Scrabble. Et en fait, l'année dernière, j'étais à la maison. J'avais pris une année sabbatique en revenant de l'étranger. Donc, j'avais du temps... le soir, forcément, sans travailler, je finissais pas le travail tard. Et donc, un jour, comme j'aime bien aussi jouer au Scrabble une fois de temps en temps, j'ai demandé à Martine, tiens, est-ce que je peux vous rejoindre ? À quelle heure vous le faites, etc. Et puis, elles m'ont gentiment invitée dans leur groupe. Donc, dès que je pouvais, au début, j'y suis allée à tâtons en me disant, bon, je ne vais pas venir trop souvent, je ne vais pas les embêter. Et puis après, dès que je pouvais, dès que j'étais là à la bonne heure, je demandais, est-ce qu'il y a Scrapero ? Ça me dirait bien de venir. Et donc, l'année dernière, j'ai souvent fait un Scrapero, des fois chez René, chez Martine, chez leur ami Fred. Et parfois, deux fois, c'est venu à la maison. Voilà.
Et ces jours-ci, c'est l'été en France. Est-ce que vous continuez à vous réunir régulièrement ?
Oui, oui, on se réunit régulièrement, mais on est moins nombreuses parce qu'il y a souvent en vacances ou alors on a des activités, la famille qui vient. Donc, c'est un peu moins régulier, mais ça se fait quand même. Hier soir, on a fait un Scrapero avec René, toutes les deux, dans le jardin. Il faisait bon. Et donc, on continue toutes les semaines à essayer au moins de faire une fois par semaine le Scrabble.
Pour voilà. Entretenir nos
neurones.
Nos neurones.
Moi, je me souviens aussi quand j'étais au Nigeria, plus ou moins pendant la période du Covid, mais c'était plus des confinements stricts, on va dire, en France. Donc, mon mari était en France à la maison, Martine était chez elle et moi, j'étais au Nigeria. Et en fait, on avait trouvé un site internet où on peut jouer au Scrabble à plusieurs. Et donc, en fait, on s'était connectés et parfois, on se faisait... une partie et on se parlait sur WhatsApp en même temps. Et bon, c'était pas le scrapéro. C'était moins sympa que quand on est tous autour de la même table à faire tourner le plateau de luxe en plus qu'elles ont, ces mesdames. mais voilà, c'était donc on l'a même fait à distance quelques fois.
Et est-ce que vous aurez la possibilité peut-être de vous réunir à distance comme ça à l'avenir pour essayer de jouer au Scrabble en ligne?
On pourra essayer, hein.
On peut essayer. Enfin, moi, je suis pas très bonne avec Internet et tout ça. Là, c'est Florent, le fils de Martine, qui nous a mis, qui nous a mis tout ça parce que.
Mais ça peut se faire. On va lui demander sa contribution et il viendra nous installer le système. Le seul problème, c'est que si on le fait avec le décalage horaire, si nous, on fait le matin, ça va être difficile de faire l'apéro le matin.
Ah oui, on va pas.
On va pas commencer de bonne heure.
On va pas mettre la bouteille de vin, les biscuits, les tartes.
Ça sera plutôt voilà. Le petit déjeuner pour nous et l'apéritif pour vous.
On peut faire un
voilà, temps. Voilà, ça sera le morning tea. Voilà, parce que en fait, c'est 10, en ce moment, 10 heures pour vous, 18 heures pour nous. Donc nous, c'est l'heure de l'apéro quand vous êtes sur un petit déjeuner tardif. Ou alors, vous commencez l'apéro du déjeuner quand nous, on est vraiment sur la fin du scrapéro.
Voilà.
Ou alors, on fait un brunch.
Voilà, vous faites un brunch en prenant pas trop d'alcool quand même.
On ne prend pas de petit déjeuner le matin et on mange. Oui, on peut,
ça peut se faire.
Et vous avez des projets là pour les mois d'été de se réunir régulièrement?
Non, pas spécialement. Après, on remet bien en place au mois de septembre. Par exemple, Fred qui joue avec nous en ce moment, elle est en Grèce. Donc voilà. Et il faudrait peut-être qu'on recrute une.
On va recruter. En attendant que Marie-Hélène revienne en France, on va peut-être recruter une quatrième personne. On va essayer.
Il faudrait qu'on trouve quelqu'un.
Voilà. Et puis des fois, si on y arrive à un moment, il faudra qu'on se fasse au moins un petit aperçu quand nous on le fait au pop-up avec des nouveaux adeptes, parce que là, je sais plus combien il y a d'inscrits pour mercredi soir, mais mercredi nous on en a un. Je crois qu'il doit y avoir une quinzaine de personnes inscrites. On peut faire. On a acheté 4 plateaux.
Oula!
Et ouais, on a acheté 3 plateaux pour la petite alliance. Oui. Et puis il y a mon plateau personnel que Martine m'a offert en partant, le grand. Mmh. Parce que moi, sinon, avant, je jouais avec les petits Scrabble de travel, là,
de lettres.
Donc voilà, donc on a 4 plateaux. On peut jouer à voilà entre 12 et 16. Et puis on fait vraiment le concept Scrapero. Il y a le verre de vin qui est offert par l'Alliance. Et puis, on a proposé aux gens d'amener baguettes, pâté, cornichons. Enfin bref, de faire un petit apéro en même temps. On verra ce que ça donne mercredi soir.
Et alors, quand vous avez joué, là, vous avez fait comment? Vous avez fait des équipes? Comment est-ce que vous avez fait?
Alors moi, le premier, malheureusement, je ne pouvais pas être là. Donc, je n'y ai pas assisté. Mais elles ont fait, oui, il y avait 2 ou 3 plateaux, je crois.
Oui.
Et ils ont fait, oui, alors c'était vraiment juste 2-3 équipes qui jouaient chacun séparément. Mais je pense que si on continue, peut-être qu'une fois de temps en temps, il faudra qu'on trouve quelques idées, peut-être des défis entre les équipes, ceux qui terminent en faisant plus de points. Vous pourrez certainement nous donner plein d'idées là-dessus.
Oui, ou alors tu sais,
faire des éliminatoires.
Oui, ou alors faire le. Ça y est, je ne trouve plus le mot, le Scrabble où il y a les mêmes lettres.
Oui.
Faire le duplicate.
D'accord, ok, il faudra qu'on regarde ça. Effectivement, je me souviens que tu avais parlé de ça. Mm-mm. Oui, on pioche les mêmes lettres pour tout le monde et on doit faire.
C'est celui qui fait le plus de points.
De points. Ouais.
On met un sablier, là, Marie-Hélène. Hein.
D'accord.
Martine et René, est-ce que ça vous donne envie de venir faire un petit voyage ici en Australie?
Ah oui, alors moi j'ai très très envie d'aller en Australie. Le problème c'est que j'ai la phobie des araignées et ça me retient un petit peu quand même. Mais bon, il faudrait que je passe au-delà et j'espère bien aller visiter l'Australie l'année prochaine.
Alors si ça peut te rassurer, pour le moment, depuis que je suis arrivée, j'en ai pas vu une seule en ville.
Ah, chouette.
En ville, en ville,
en ville.
En ville, on n'est pas, mais il y a beaucoup de choses à faire en ville et même les quelques fois où on est allé dans le bush, même si c'était pas encore très loin, j'en ai pas vu du tout.
Bon, ça va.
J'en ai vu une ou deux, mais dans des grosses toiles, mais assez éloignées. Pas du tout dans la chambre, par exemple. Donc on t'accueillera.
Oui. Ben, Renée peut t'en parler, mais elle connaît déjà l'Australie.
Oui. Oui, c'est vrai que René est venu plusieurs fois, c'est ça, ce que tu étais guide?
Trois fois. Parce qu'en fait, j'ai accompagné des voyages pour Nouvelle Frontière. Oui, il est où le Claude?
Non, il est là. Voilà.
Et quel est le message que vous auriez pour la deuxième édition de Scrapero qui se déroulera dans les locaux de l'Alliance française ce mercredi 21 juin? Martine?
Continuez surtout, accrochez-vous, même si vous perdez. C'est ce qui compte le plus, même si je suis très mauvaise joueuse, que je n'aime pas perdre. Mais il faut quand même s'accrocher et puis garder le contact avec ses amis. C'est très, très, très important. Et ça permet de rester jeune.
Et vous, René, vous avez un petit message?
Passer un bon moment, apprécier de trouver des mots, jouer avec oui les lettres et les mots et les beaux mots de la langue française, voilà.
Oui, on voit que ça vous garde jeune, dynamique, souriante. Moi, j'adore.
C'est vrai.
Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être intervenu sur nos ondes de Radio SBS ici en Australie et bonne continuation.
Merci beaucoup. Et merci de votre accueil.
À bientôt, Jean, merci.
À bientôt, Marie-Hélène, bisous.
Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Avec ce morceau Warrior Up du chanteur aborigène Mitch Tambo, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci infiniment de nous avoir suivis ce samedi 6 juillet. Prochain rendez-vous avec le français sur SBS Audio, c'est demain dimanche à la même heure. Bon après-midi et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.